Bonsoir Pierre Veil.
Bonsoir Alain Passerelle.
Mon cher Pierre, jamais vous ne raterez une occasion de parler des Stones.
Eh oui Alain Passerelle, ils seront en concert les Rolling Stones après-demain au Stade de France, leur seul concert dans l'Hexagone. C'est complet évidemment, les 75 000 places se sont vendues en 50 minutes, même chose dans tous les pays qu'ils visitent en ce moment, c'est archi complet. Plus de 50 ans de carrière, Mick Jagger et Keith Richards ont 70 ans, Charlie Watts 72 ans, Ron Wood 67. Pourquoi ce succès inusable? Pourquoi on ne se lasse pas d'écouter ces quelques accords de guitare de Keith Richards? Voilà, le plus célèbre, le plus ancien groupe de rock dans le monde est l'inévitable Honky Tonk Women. Vous vous posez des questions à propos de leur longévité, des Rolling Stones, vous avez des souvenirs, vous jugez qu'ils sont toujours une image clé de l'histoire du rock, ou alors plus du tout depuis longtemps. Appelez-nous, écrivez-nous des courriels, interrogez nos invités. Frédéric Lecomte, il est journaliste, spécialiste de l'histoire du rock et de la musique pop anglo-saxonne, il a publié avec Fabrice Drouel de France Inter et Gilles Verland, 1967, l'année de l'amour aux éditions Fedgen. Et puis Louis-Julien Nicolaou, il est journaliste, spécialiste de musique aux Inrocuptibles et il a contribué à la rédaction du hors-série des Inrocuptibles sur les Rolling Stones, un hors-série qui a été réédité et qui est en vente depuis quelques jours. Avant de retrouver nos invités, vos questions, encore les Stones. Rock and roll, but I like it. C'est du rock and roll. Ce n'est que du rock and roll, mais j'aime ça. Et je crois que tout est dit. Et au standard, déjà des appels. Juan Carlos nous appelle. Il est en ligne à Ploueren. Bonsoir, Juan Carlos.
Oui, bonsoir. Ça s'appelle Pleurant, c'est en Bretagne.
Ah, pardon, Pleurant. Allez-y, on vous écoute. Les Stones, alors, pour vous, c'est toujours bien?
Voilà, bah en fait les Stones pour moi c'est toute ma vie, depuis 1971, j'avais 15 ans et j'en ai 58 maintenant et donc c'est minimum 10 chansons par jour, sinon je tiens pas le coup.
Mm-hmm. Mais pourquoi? Pourquoi vous aimez cette musique? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique des Rolling Stones?
Bah en fait cette musique c'est de la dynamite à l'état pur, quoi, hein. Vous prenez, c'est l'exemple que je disais tout à l'heure, vous prenez un sucre et puis vous en avez pour 10 ans à tenir le coup, quoi. Mm-hmm. Les Rolling Stones ça dépote, quoi. On peut pas faire mieux à mon sens au niveau du rythme et de la qualité de la chanson.
Juan Carlos, vous les avez vus sur scène?
Je les ai vus 3 fois sur scène, en 76, en 98 et en 2003 pour être précis.
Et jamais déçu?
Plutôt deux fois qu'une, j'y serais retourné si j'avais pu. Plus souvent.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Frédéric Lecomte, cet auditeur. Ça montre bien la fidélité, malgré les années.
Il est très fidèle et il a découvert les Stones sur scène en 76. Ça devait être au pavillon de Paris, Porte de Pantin, pour les 4 concerts qui étaient absolument magiques. 2003, au Stade de France, moi j'ai trouvé qu'ils étaient quand même un peu en dessous de la barre. Ça jouait pas terriblement juste, Keith Richards était à côté de la plaque, mais c'était la première fois qu'un groupe de rock se produisait au Stade de France. Ça suivait la finale du mondial avec le Brésil, et donc ils essuyaient les plâtres. Et puis 2003, c'était totalement magique, mais c'est un auditeur qui a fait le parcours visiblement.
Alors on a eu reçu ce courriel aussi de Christina à Paris, pas très contente, elle nous écrit « Où est la révolte du rock? Où sont les Stones rebelles provoquants? Où sont les transgressions formidables des Rolling Stones? Ce sont aujourd'hui des hommes d'affaires qui font du fric dans des stades. On paye 100 € et même plus pour les voir à 2 km minuscules. C'est quand même très décevant. » Louis-Julien Nicolaou, pour les Inrock.
Oui, bah ça c'est une vieille histoire. On leur reproche ça depuis à peu près 40 ans au moins. Et ouais. Je crois que c'est un peu un faux débat. À 71 ans, à 70 ans, qui est encore un rebelle? Bon, voilà. Et je crois que Keith Richards, par sa vie en elle-même, par ce qu'il est en lui-même, il porte déjà une espèce de pied de nez à tous les conservatismes. Mick Jagger aussi, à sa façon, c'est vrai que ce sont aussi... si vous voulez, d'affreux hommes d'affaires. Vous écoutez un disque, vous les voyez sur scène, c'est pas ça que vous voyez. Vous voyez des gens qui ont du plaisir à jouer et qui vous donnent énormément de plaisir et de bonheur.
Ouais. Cela étant, les concerts dans les stades, Frédéric Lecomte, c'est quand même difficile d'apprécier des musiciens dans des stades.
Bah, il y a le fond et la forme. Alors, sur le fond, c'est une machine extraordinairement bien huilée.
Ouais.
Avec des concerts magiques, on a encore vu le concert d'Hyde Park il n'y a pas longtemps à la télévision. À 70 ans, voir Jagger courir comme un lapin, ça donne à réfléchir. La question de l'auditrice portait essentiellement sur le côté rebelle des Rolling Stones. Et là, effectivement, on atteint la forme. Et là, ce n'est plus du tout le cas. Ils chantent Street Fighting Men. Ils l'ont chanté, le bagarreur de rue, l'émeutier. Ouais. Ils l'ont chanté à Hyde Park. Et moi, il y a un truc qui me gêne par rapport à ça et pour rejoindre notre auditrice, c'est qu'ils ont donné un concert à Tel Aviv. Mmh. Alors, je suis super content pour les Israéliens pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Ils ont donné un concert à Tel Aviv. Ils ont été reçus avec les honneurs et les gloires... Ouais. Inhérente à un grand groupe de rock, parce que Tel Aviv, ça n'a jamais vraiment été une ville où il y avait des concerts de rock'n'roll. Par contre, ce qui me gêne pour des mecs qui chantent Street Fighting Man, Highwire ou Sympathy for the Devil, c'est qu'ils ne sont pas allés jouer même 20 minutes en Palestine. Mm-hmm. Parce que les Palestiniens n'ont pas d'argent. Les Israéliens ont énormément d'argent, donc ils ont payé un concert faramineux. Mais les Palestiniens, c'est des êtres humains aussi. Ils ont le droit d'aimer les Rolling Stones. Et là, les Rolling Stones n'ont pas fait le geste de leur accorder 5 minutes. Et là, le côté rebelle n'existe plus.
C'est vrai, il n'y a pas eu de concert des Rolling Stones, par exemple, à Ramallah. Et ça aurait, je pense, remporté un très, très grand succès. Patrick est en ligne avec nous. Patrick se trouve à Paris. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Pierre Veil, bonsoir à vos invités. Écoutez, la magie des Rolling Stones pour moi, qui suis un tout petit modeste musicien, c'est leur durée, c'est leur style. Mm-hmm. Ces gens-là ont un style musical, et quand on lit leur musique, hein, ce qui est mon cas comme des millions de gens, on sait qu'on retrouve 80% de leur style dans pratiquement tous leurs morceaux. Quand on écoute, je suis d'accord avec votre intervenant, j'ai vu le concert à Hyde Park sur France 4 d'ailleurs, avant d'hier soir, et c'était un moment magique. Évidemment, c'est un moment magique, mais c'est toujours la même magie musicale. On attaque les riffs de la même manière, on sort des choruses de la même manière, le rythme des refrains, des couplets, c'est parfaitement huilé. Et je crois que c'est cette idée, finalement, de ne pas changer son identité musicale qui fait que les Rolling Stones sont un courant musical transgénérationnel, transculturel. À Hyde Park, moi, j'ai eu la surprise de voir des gosses de 18 ans chanter par cœur les morceaux des Rolling Stones. Leurs parents étaient à peine nés quand les Stones ont commencé faire entonner ses chansons. Voilà, c'est le style musical qui, à mon sens, fait vraiment la durée de ce groupe. Alors, on n'y est peut-être pas de U2 et des Cure dans 20 ou 35 ans, mais pour l'instant, seuls les Stones ont parvenu à garder cet esprit, cette identité musicale.
Très bien, Pierre et Patrick, pardon, j'y retrouvais cette phrase aussi de Keith Richards, je crois qu'il résume bien la musique des Stones. Il l'a dit en 1982, les Stones étaient l'imitation blanche et londonienne du South Side Chicago Blues, et ça a marché. Louis, Julien, Nicolaou.
Oui, alors ça, c'était plutôt au début. Je crois qu'après, ils ont quand même réussi à trouver leur style propre. Ça repose sur une combinaison d'éléments très, très spéciaux, très, très étonnants. Il y a une opposition entre Mick Jagger et Keith Richards de caractère. On sait que Mick Jagger aime bien les morceaux plus lents. Keith Richards préfère les morceaux c'est plutôt l'inverse, rapide. Et Keith Richards préfère les morceaux plus lents, plus blues. Il joue avec des accords ouverts, il a un son qui est très particulier. Ce n'est pas un technicien à la base, Keith Richards, c'est quelqu'un qui joue vraiment sur le son. De même, Charlie Watts, souvent, on l'a entendu être décrié. Moi, je trouve que c'est un batteur qui a une identité très forte. Et encore à Hyde Park, on le voyait jouer sur Sympathy for the Devil, et il a toujours son groove et son swing incroyable. Et je pense qu'effectivement, votre auditeur a parfaitement raison, il y a une combinaison sonore, une identité très forte, effectivement transgénérationnelle, j'ai pu moi-même le remarquer, puisque mon père écoutait les Stones, j'écoute les Stones, et mon fils de 9 ans écoute également les Rolling Stones.
Frédéric Lecomte ?
Oui, comment peut-on porter un jugement négatif par rapport à un batteur du style de Charlie Watts, qui est le plus vieux du groupe,
ouais,
qui est celui qui bénéficie des plus longues ovations, standing ovation, chaque fois que Mick Jagger présente les Rolling Stones sur scène, et qui est le batteur rock par excellence. J'ai eu la chance de sympathiser avec Bill Wyman. Et Bill Wyman, qui était le bassiste originel des Stones, qui est parti en janvier 1993 et puis qui est revenu faire quelques concerts à Londres, me disait, on était la section rythmique la plus clean du monde. Tout le monde prenait de la dope. Nous, on ne prenait pas de dope. C'est-à-dire que Keith Richards, Brian Jones, ouais, Mick Taylor, Mick Jagger, tous les musiciens des Stones étaient dans la défonce, la coke, l'héroïne, l'acide, etc. Et il y en avait deux qui étaient clean de chez clean, comme vous et moi.
Charlie Watts.
C'était Charlie Watts et Bill Wyman.
Ouais.
Et Charlie Watts, il a 72 ans, il est toujours aux commandes, et putain, il joue.
Laurent est à Lille. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir.
Les Rolling Bonsoir. Stones, qu'en pensez-vous ? Vous êtes un fidèle ?
Non, pas du tout. Moi, je venais un peu en contrepoint de tout ce qui a pu se dire depuis le début de l'émission. Je suis passionné par leur début. Mais grosso modo, je considère que depuis Exile on Main Street en 72, ils n'ont absolument rien sorti d'intéressant. Donc là, je ne parle pas de la scène, ça reste des bêtes de scène. Et Mick Jagger est une tête à claque, mais c'est quand même une formidable tête à claque et une formidable bête de scène. Mais par contre, d'un point de vue musical, je considère qu'ils n'ont absolument rien proposé de nouveau. Ils ont été un petit peu secoués par le mouvement punk et le disco, ce qui fait qu'ils ont cet album en 78, Some Girls, qui a un peu de valeur musicale. Mais pour le reste, c'est une éternelle ressucée d'un style qui a été créé entre 62 et 72, et il n'y a rien de nouveau à l'horizon, et c'est triste. Ça donne des disques qui sont quand même d'un ennui implacable, alors qu'il y a des gens de leur génération qui ont probablement, sans même forcément changer de style, ont su trouver un regain de jeunesse. Je pourrais citer Dylan, je pourrais citer Neil Young. Bon. Neil Young est quelqu'un de formidable qui a su se renouveler tout en conservant son identité. Je trouve que les Stones n'ont jamais rien renouvelé depuis 72. C'est vraiment une formule.
On
ne va pas être d'accord.
Le débat est ouvert. Frédéric Lecomte, allez-y.
Alors, par rapport à Bob Dylan, dont je suis un fan inconditionnel, il faut quand même remarquer et reconnaître que depuis 4-5 ans, il joue sur un synthé à moitié branché. Ses parties vocales, on devine les chansons au bout de 10 minutes, il ne joue plus de guitare sur scène, et c'est quand même assez lamentable.
Si on reste sur les Stones, est-ce que vous trouvez, comme Laurent, que quelquefois, les Rolling Stones, ils tournent un peu en rond ?
Ah bien sûr, quand Jagger fait Miss You, c'est insupportable.
Ah bon ?
Mais, parce que c'est toujours la même version, avec toujours le même riff.
Ouais.
Mais les Stones se renouvellent, alors que Bob Dylan ne se renouvelle pas.
Louis, Julien, Nicolas, ou pour les Inrock.
Alors d'abord, il y a effectivement cette légende un peu qui court, qui voudrait que les Rolling Stones soient finis en 72. Bon, Exile on Main Street est un chef-d'œuvre, c'est une chose, mais il y a de très belles choses derrière. It's Only Rock'n'Roll est un grand album de rock. Il y a de belles choses dans Black and Blue, dans Some Girls, et il y a toujours de belles choses dans tous les albums, pratiquement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je me rappelle qu'Alain Bashung déclarait qu'il était très difficile pour un artiste ou un groupe de tenir plus de 10 ans, et que même les Beatles n'avaient pas réussi. Si on accepte David Bowie, qui est assez unique en son genre, on ne peut pas demander à des gens qui ont aujourd'hui 70 ans de se renouveler quand ils ont déjà fait autant de classiques, autant de grandes chansons. De se renouveler, c'est-à-dire de repartir de zéro. Ils voudraient qu'ils fassent quoi, un album de hip-hop? Bon, ça n'aurait aucun sens et les gens ne voudraient pas ça non plus. Les Stones, ils ont leur son, ils ont leur musique, leur dernier album est tout sauf indigne. Il y a de très belles choses dedans et qui ravissent les fans, quoi.
Jean-Pierre Amoulin dans l'Allier. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir. Voilà, écoutez, j'aurais une question très technique et qui me turlupine depuis longtemps. Ah. Comment Keith Richards accorde sa guitare? Parce que j'arrive pas à repiquer ses accords, là, en le regardant faire. Est-ce qu'il n'aurait pas un accordage un petit peu, différent du mi, la ré, sol, si, mi, voilà.
Alors Frédéric Lecomte.
Ouais, alors là, j'ai bossé 10 ans en guitare et clavier, donc j'ai étudié le problème de très près. Il utilise deux tunings différents, l'open tuning de sol et l'open tuning de mi. C'est-à-dire que quand vous frappez les six cordes d'une guitare, ça va être un peu technique, vous avez mi, la, ré, sol, si, mi. Quand vous les jouez à vide, c'est dissonant. Donc pour que ça sonne, il faut mettre des doigts et des positions particulières sur le manche et sur les cordes, de manière à obtenir un accord. L'open tuning, c'est très simple, ça vient du blues. À l'époque, ils jouaient avec des bottlenecks, des goulots de bouteilles ou des canifs. C'est quand vous frappez les six cordes à vide, vous avez un accord plein, entier. Donc un accord de mi ou un accord de sol. Donc il suffit de monter les cordes et de les baisser, de manière à ce que quand vous frappiez les cordes à vide, vous avez un mi ou un sol. Keith Richards a appris ça d'après Taj Mahal et Ray Cooder. Ce sont les deux grands guitaristes qui lui ont enseigné l'open tuning. Le meilleur exemple d'open tuning, c'est Honky Tonk Woman, qu'on a écouté tout à l'heure.
Absolument.
Et c'est là-dessus...
Des accords historiques.
Des accords historiques.
Ouais, ouais. Et c'est vraiment Keith Richards.
Et en plus, c'est un truc de feignant, ouais. Parce que vous avez... Parce que Keith Richards était quand même passablement défoncé, il faut le dire, pendant 40 ans. Et donc, c'était des accords de feignant, puisqu'il n'avait qu'à barrer une case, il avait un accord complet entier.
Alors,
donc en fait, ces accords, c'est l'open tuning.
Merci. Juste une chose que voilà. Je me permets d'ajouter, il joue sur des guitares à 5 cordes, hein, ça ne faut pas l'oublier. Donc pour obtenir son son, bah, il faut aussi enlever sa corde de mi.
Voilà, j'espère que Jean-Pierre aura là des informations pour essayer de reproduire les sons bon de Keith Richards. À propos de Keith Richards, courriel de Ronan à Rohan. J'estime que l'âme du groupe, c'est Keith Richards. Le bandeau autour de la tête, la voix caverneuse, le visage marqué avec les rides comme des balafres, les drogue, l'alcool, tous les excès et cette sublime nonchalance, c'est le rock'n'roll. Vous êtes d'accord, Louis, Julien, Nicolas?
Oui, c'est un archétype effectivement du rock'n'roll. C'est absolument incroyable qu'il soit toujours là, l'état dans lequel il est, et qu'il arrive encore à. Alors oui, bon.
Il y a 10 ans, il a dit je suis saoul depuis mes 18 ans.
Oui, ce qui est pas faux. Je pense qu'il est effectivement déchiré depuis toujours. Il a toujours eu cette espèce de démarche un petit peu prête à tomber tout. Après. Faut pas oublier que tout seul, c'est quand même autre chose que quand il est avec Charlie Watts et Mick Jagger et Ron Wood, et que les Rolling Stones, bah c'est cette entité-là, c'est cette alchimie-là, quoi.
Je rappelle que les Inrock publient un hors-série cette semaine, The Rolling Stones, une légende éternelle. À propos de Keith Richards, Frédéric Lecomte.
Oui, pour en revenir à Keith Richards, dont votre auditrice a très bien défini la particularité, la personnalité, le look, le style. Quand Johnny Depp, qui est un fan inconditionnel de Keith Richards, qui projette d'ailleurs de faire un film sur Keith Richards, dans lequel il interpréterait le rôle de Keith Richards, c'est vous dire à quel point il est fan. Quand Johnny Depp fait les Pirates des Caraïbes numéro 3, il veut que son père dans le film soit Keith Richards. Donc il convoque Keith Richards pour un tournage et il arrive complètement bourré, complètement défoncé, incapable d'aligner deux mots. Et là, le réalisateur lui dit, Monsieur Keith Richards, ça va pas être possible de faire le tournage, là, vous êtes trop défoncé. Et Keith lui dit, si tu voulais un mec clean, fallait changer de numéro.
Quelques souvenirs maintenant, si vous voulez bien. En 1982, hein, c'était il y a donc 31 ans, les Rolling Stones ont donné un concert à Paris, à l'hippodrome d'Auteuil. Et la veille du concert, Mick Jagger a reçu quelques journalistes dont je faisais partie. C'était le 19 mai 1982.
Moi, j'aime bien faire les shows. Quand je fais les shows, je jette tout ce que j'ai dans les shows. On va continuer. Parce que c'est difficile d'arrêter.
Ouais, donc tu n'as fixé aucune limite à l'histoire des Rolling Stones. On a parlé souvent de séparation, non. De fin de l'histoire. Pour l'instant, ça continue.
Absolument non. Non, on va continuer. On a fait les plans, on dit ça.
Oui,
les plans, les projets. Les projets pour les prochains deux ans. Alors, et moi, j'ai des autres choses que je voudrais faire, mais les prochains deux ans, ce sont les Rolling Stones pour moi. Moi, je prends les décisions de les tourner beaucoup. Où on va jouer, quand on va jouer, quel pays, combien de concerts. Mais dans le studio, Keith et moi, on partage le chef d'orchestre, le rôle. Alors, c'est un groupe comme ça. Alors.
Mais les trois autres, c'est-à-dire Charlie, Bill et Ron, sont-ils exclus de toutes les décisions prises musicalement? Est-ce qu'ils sont mis non. devant le fait accompli?
Non, absolument pas. Ils ont Charlie, le batteur dans un groupe, c'est toujours important parce qu'il peut changer une chanson très très vite parce que s'il change le rythme, de chansons, ils changent.
Mick Jagger, il y a 31 ans, en français, à l'hippodrome d'Auteuil. J'ai osé le tutoiement à l'époque. J'étais gonflé quand même.
Hein. Mais il parle très bien français. Ouais. Il habite en France.
Ouais.
Il habite dans le Loiret. Il a un château, il est châtelain, le domaine de la Poussie.
Mais ce qui apparaît, Frédéric Lecomte, je crois que c'est toujours vrai, c'est qu'il est quand même un peu le patron du groupe. Hein.
Ah, he's the boss.
Ouais, ouais.
C'est le patron du groupe parce que... En fait, ce qui s'est passé, si on veut zapper rapidement, au début des Rolling Stones, la star, c'est Brian Jones.
Ouais.
C'est lui qui a fondé le groupe. Et quand il monte sur scène, les fans chantent Brian, Brian, Brian. Et puis Mick Jagger, en tant que chanteur, va lui voler la vedette. Keith Richards, lui, les oreilles décollées, il est plein de boutons d'acné. Et il fait du Chuck Berry. Et puis, Brian Jones va mourir. Keith Richards va sombrer irrémédiablement dans l'héroïne. Il va plus être capable de prendre le contrôle du groupe. Et là, après s'être fait arnaquer par la maison de disques Decca et avoir fondé leur propre album Rolling Stones Records avec la langue pour avoir leur argent, Jagger, par défaut, et n'oublions pas qu'il a fait London School of Economics, c'est pas un prolo. Jagger va prendre les affaires financières des Rolling Stones en main. Et à partir de là, le boss, c'est lui.
Dans ce hors-série des Un Rock, bien sûr, vous revenez sur toute l'histoire des Rolling Stones, notamment dans les années 60, les débuts des Rolling Stones. J'ai retrouvé ce commentaire dans le Daily Mirror. C'était en août 1964. Voilà ce qu'on écrivait à propos des Rolling Stones. Ces gens-là sont une menace pour la loi et l'ordre. Leur mélange de laryngite, de fourrure crânienne et de sexe contraint la police à négliger les attaques de banques, les meurtres et autres formes de criminalité. Car elle doit réprimer la violence collective que ces types déclenchent. Louis, Julien, Nicolaou, à l'époque, les Stones, dans les années 60, ils faisaient peur, ils inquiétaient.
Ils inquiétaient une certaine partie de l'establishment, qui ouais. a d'ailleurs essayé de les mettre en tôle en 67. Aujourd'hui, ils font plus peur à personne, c'est sûr. Ils sont anoblis, enfin en tout cas Mick Jagger est anobli, mais effectivement, à l'époque, c'était quelque chose de très audacieux. D'avoir une attitude comme ça de voyou et de décadent aussi un petit peu et je pense qu'ils ont contribué largement à renverser un petit peu quelques valeurs. Ils n'étaient pas tout seuls, il y avait d'autres personnes hein. Mais ils ont un peu décoincé l'Angleterre, ça c'est indéniable, et puis le reste du monde a suivi quoi.
Frédéric Lecomte, Les Stones, écoutez, les cheveux longs.
On a fait un faux débat génial qui a été créé de toutes pièces par les managers et par la presse. Les gentils Beatles contre les méchants Rolling Stones. Ils prenaient la même dope, ils avaient les mêmes dealers. Ils partousaient avec les mêmes groupies. Ils étaient potes comme pas possible. Si bien que les Rolling Stones, en 63, sortent leur premier 45 tours, Come On, I Want To Be Love. En deuxième 45 tours, ils prévoient Poison Ivy, Fortune Teller. Les Beatles arrivent, vont les voir sur scène et leur disent « Non, le deuxième 45 tours, on vous l'offre. C'est I Wanna Be Your Man. » Et les Stones jouent les Beatles. Et les Beatles reprennent I Wanna Be Your Man avec Ringo Starr, la version est 10 fois moins bien que celle des Rolling Stones.
Celle des Rolling Stones, c'est du punk.
Mais donc, cela étant, moi j'ai quand même des souvenirs, ça me rappelle ma jeunesse. Je veux dire, les Rolling Stones, à l'époque, la musique était quand même plus brutale, plus agressive. Les Beatles, c'était plus dans la mélodie.
Quand les Beatles conquièrent l'Amérique en 64 avec I Want To Hold Your Hand, Je veux te prendre par la main, Jagger, il chante I Just Wanna Make Love To You. J'ai juste envie de faire l'amour avec toi. Et il n'est pas numéro un aux États-Unis. Par contre, il est numéro un dans les esprits un peu aiguisés du public anglais.
Un courriel de Patrick depuis, il nous écrit depuis It's All Over Now. Ça remonte à 64. Voilà.
C'est leur premier numéro un aux États-Unis.
Voilà, je suis un inconditionnel des Stones. Ils ont accompagné ma vie depuis 1962. Pour moi, la meilleure des meilleures, c'est Sympathy for the Devil. Voilà, je suis un papy rocker de 68 ans et le 13 juin, grosse déception, j'ai loupé le concert du Stade de France. J'ai pas réussi à avoir de place. Il est comme moi. Voilà, on va écouter les Stones, tiens. Normalement, il devrait le chanter au Stade de France vendredi soir. C'est un inévitable.
Il commence par ça à Hyde Park.
Voilà, exactement.
Mais Start Me Up, en fait, c'est une chanson qui a une histoire assez singulière. Parce qu'en fait, c'était dans les studios Pathé Barconi de Paris où ils ont enregistré Some Girls, Emotional Rescue et un nombre incalculable d'inédits, dont Claudine, dont on parlait tout à l'heure. Et Start Me Up, au départ, c'est un reggae.
Ouais.
C'est un morceau reggae et Jagger calque Start Me Up, machin. Et puis d'un seul coup, Keith Richards balance à la poubelle le rythme reggae et il fait ce riff imparable qui est d'une simplicité enfantine, mais c'est imparable.
Christine est à Dunkerque, elle patiente au standard du téléphone zone depuis un bon moment. Christine, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur, je suis toute intimidée parce que...
Il ne faut pas.
Je ne pensais pas du tout être appelée.
Mais voilà, et vous êtes sur l'antenne.
J'adore les Rolling Stones, mais vraiment je suis fanatique des Stones, comme je cautionne tout ce que j'ai entendu. Par contre, depuis que j'ai entendu une émission, j'ai loupé un témoignage féminin, je trouve quand même que c'est un univers très masculin. Et le film « 20 Feet for Stardom » confirme mon propos. Et Mary Clayton... Lisa Fisher, elles ont permis aux Stones de mettre des tubes en avant, mais elles sont extraordinaires. Ce film, j'ai été le voir 3 fois. J'ai vu les Stones une fois. Mais alors, moi, j'ai passé après 15 jours à ne penser qu'à ce film, 20 Feet for Stardom. J'ai envoyé plein de monde le voir. Et la scène où Mary Clayton raconte qu'elle avait ses bigoudis, qu'elle est en plein milieu de la nuit, qu'elle était enceinte, je crois, et qu'un groupe qui débarque de l'Angleterre pour enregistrer un morceau, et on l'appelle, on lui dit « viens », et que ça fait un tube qu'on connaît, mais franchement, ça prend trip d'entendre des choses pareilles. Et moi, j'ai 51 ans, mon fils, il a entendu les Stones très tôt, et il adore. Il a 9, maintenant il en a 13. Je suis prof, j'ai des élèves qui. J'en parle avec mes élèves, des fois ils me font des copies de CD, moi je leur en fais, on fait des échanges. Mm-hmm. Et une fois l'an dernier, quand j'étais à Paris, je suis allée voir les Rolling Stones au Stade de France. Alors j'y suis allée pour l'ambiance, parce que c'est vrai que c'est la reine, on voit rien.
Ouais, c'est en 2007 ça. Hein.
Voilà. Ben, c'était l'année avant que je vienne à Dunkerque, ouais. Que j'ai vécu 20 ans à Paris. Et franchement, j'arrive pas à trouver, j'essaie d'entendre, mais quel est le mystère qui leur a permis? Parce qu'avec cette consommation de drogue, mais comment physiquement put-il tenir?
Merci Christine de nous avoir appelé Louis-Julien Nicolaou. Voilà, c'est l'enthousiasme.
Oh, oui, il y a l'enthousiasme. Et puis je retrouve des choses parce qu'effectivement, on a tous un vécu avec les Rolling Stones. Ouais. Et ça nous réunit. Effectivement, c'est un groupe qui a eu des paroles très machistes dans ses titres. Mais en même temps, il y a effectivement une énergie sexuelle et une énergie festive qui rassemble les hommes comme les femmes. Il y a des femmes qui sont effectivement fans des Stones. Moi, je trouve que l'auditrice a parfaitement raison de rappeler l'apport de Mary Clayton sur Gimme Shelter. C'est extraordinaire ce qu'elle en a fait. Elle en a fait d'ailleurs une version soliste derrière qui est tout aussi extraordinaire. C'est une grande chanteuse soul méconnue. Quand elle parle de Lisa Fisher, elle a parfaitement raison également. C'est une vraie présence sur scène, quelqu'un qui apporte énormément et auquel les Stones sont fidèles, eux qui n'ont pas toujours été très fidèles avec les femmes. Et oui, voilà, c'est une vie, on vit à travers eux depuis très longtemps et on leur pardonne beaucoup aussi parce qu'ils sont un peu le miroir de nous-mêmes et ils ont aussi vécu une très grande vie. Quoi.
J'ai retrouvé pas mal de déclarations des Rolling Stones, j'aime bien. Keith Richards parlant de Ron Wood, il dit « Ronnie est un extraordinaire mélange de talent et de conneries ». Et puis Ron Wood, parlant de Mick Jagger, il dit « C'est l'homme aux mille poses ». C'est bien vu ça.
Bah, Bill Wyman, avec qui j'ai eu l'occasion de parler longuement et de fréquenter... Et de passer des journées entières avec lui, il me disait ce qui est incroyable avec Mick Jagger, c'est que vous le mettez en face d'un Texan, il va prendre l'accent Texan. Mm-hmm. Vous le mettez en face d'un Irlandais, il va prendre l'accent Irlandais. Et là, vous avez passé tout à l'heure des extraits de l'interview que vous aviez faite en 1982. Il parle français, mais il fait exprès de parler mal français, parce qu'en fait, il parle très bien le français. Et tout est comme ça avec lui. Il pose, c'est un personnage, c'est un poseur. Alors que Keith Richards, il a la Tequila Sunrise dans le verre gauche avec la Marlboro, la coke dans la main droite avec la paille, et vous fait des interviews de 2 heures super intéressantes.
Louis-Julien Nicolaou, aujourd'hui, Keith Richards, 71 ans, c'est toujours ça, les excès, ou il s'est un peu calmé?
Alors, je pense que on est très très loin de ce qui pouvait s'envoyer dans les années 70. Il en a quand même fini avec l'héroïne. Bon, alors, tout le monde sait qu'il a un certain attachement pour la vodka, le bourbon, ouais. Donc je pense que ça continue. Effectivement, la coke, je pense qu'il n'a jamais pu arrêter parce qu'il faut quand même qu'il arrive à se mettre debout. Et puis la weed, il n'a jamais arrêté non plus, parce qu'il faut qu'il puisse s'endormir. Donc je crois qu'il est toujours bien chargé.
Et en 88, quand il sort son premier album solo, Talkie Steep, qui est vachement mieux que le premier album de Mick Jagger, d'ailleurs, ouais. Et qui fait en réaction par rapport à She's the Boss de Mick Jagger, le chef de produit, j'étais avec lui, l'emmène à l'hôtel, il est 4h du matin,
oui.
Il a bu 2 bouteilles de bourbon, il s'est fait pétard sur pétard, ligne sur ligne, et pour nous dire au revoir, il fait le poirier droit comme un i, devant sa chambre d'hôtel au Warwick sur les Champs-Élysées. Et là, il y a toute la dope qui tombe de ses poches. Et après, il faut ramasser.
Oui. Dernier appel ce soir, ce sera Nicole. Nicole est avec nous. Bonsoir, Nicole. Vous vouliez intervenir. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement.
Juste pour dire que c'est un groupe à qui on pardonne tout. J'ai 61 ans. Je suis allée voir les Stones à Paris il y a quelques années. Mes enfants partent en Belgique pour les voir cette année. Vraiment, nous sommes des inconditionnels.
Voilà, bah, vous voyez, ça confirme ce qu'on a entendu au cours de cette émission, c'est que la passion pour les Rolling Stones, elle va de génération en génération. Louis-Julien Nicolaou.
Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport aux propos précédents, c'est que Keith Richards, ça le rend d'ailleurs assez impitoyable avec tous ceux qui sont tombés autour de lui. Lui, il a déclaré, mais de toute manière, on mettra mon foie dans un musée parce qu'il est unique. Voilà, c'est un spécimen.
Et ce qui va être frappant, Frédéric Lecomte, c'est pour vous les derniers mots, c'est que vendredi soir au Stade de France, il y aura des gens qui ont 50, 60 ans, mais il y aura des gamins de 25 ans. C'est ça qui est formidable.
C'est complètement transgénérationnel et on va voir les Rolling Stones comme on va au musée du Louvre voir la Joconde ou au musée Carnavalet voir Juliette Récamier ou la Tour Eiffel.
Merci à nos invités Frédéric Lecomte, Louis-Julien Nicolaou. Je rappelle ce hors-série des Un Rock, une légende éternelle. Concert vendredi soir au Stade de France, c'est complet. Moi, j'ai pas de place, mais tant pis, on me racontera.
Moi non plus, j'ai pas de place.
C'était Le Téléphone Sonne, émission préparée par Delphine Leplay, réalisée par Laurent Thomas, la technique Eric Morin et Alexandre Abergel.